sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La Fondation Alexandre Nasis, associée à l'Institut de France, remet sous la coupole, le 14 décembre 2009, deux nouveaux prix internationaux. Pour le droit cette année, elle récompense Lord Thomas Bingham. Pour les belles lettres, l'archéologie est à l'honneur cette fois. Sir John Boardman et Jean-Yves Empereur reçoivent conjointement le prix Onassis pour les belles lettres 2009. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la remise des prix internationaux Alexandre Nasis pour les droits et les belles lettres, dont c'est la première édition. Après l'ouverture par le chancelier de l'Institut Gabriel de Breuil et l'introduction d'Antoine Papadimitriou, le président de la Fondation d'intérêt public Alexandre Nasis, vous entendrez dans l'ordre des allocutions, pour la reprise du prix Onassis pour le droit, Sir Basile Marchesini, membre du jury et correspondant de l'Institut, puis Lord Thomas Bingham, lauréat du prix Onassis pour le droit 2009. Pour la remise du prix Onassis pour les belles lettres, vous entendrez le professeur Vassili Lambriniou-Dakis, Sir John Boardman, lauréat du prix Onassis pour les belles lettres 2009, Jacques Joanna, membre de l'Institut et membre du jury, Jean-Yves Empereur, lauréat du prix Onassis pour les belles lettres 2009. Retrouvons sous la coupole le chancelier de l'Institut, Gabriel de Breuil.
Messieurs les ambassadeurs, monsieur le représentant du président de la République hellénique, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, monsieur le président de la Fondation Onassis, mesdames, messieurs, en ouvrant cette séance, que mes paroles soient d'accueil. C'est le titre d'un joli livre de l'un de nos confrères. Accueil aux éminentes personnalités qui rehaussent de leur présence le prestige de notre séance. Accueil à nos partenaires et amis de la Fondation Alexandre Nasis, dont nous apprécions infiniment et sommes heureux d'accompagner la démarche. Accueil aux vrais artisans de notre ordre du jour, les membres des jurys et les lauréats, qui ont un mérite commun, l'excellence, et donnent à notre réunion sa vraie devise, tirée de l'aphorisme de Teilhard de Chardin, « Tout ce qui s'élève converge ». Cette coupole a abrité depuis deux siècles nombre de cérémonies solennelles. Celle qui se déroule en cet instant est cependant inédite. Sans doute se situe-t-elle dans la continuité de la séance que nous tenons désormais chaque année en juin pour la remise des grands prix de nos propres fondations. Mais elle diffère aussi car l'attribution des deux grands prix internationaux sont le fruit d'un partenariat entre trois académies qui composent l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres et l'Académie des sciences morales et politiques et la Fondation Alexandre Nasis. Cette fondation d'intérêt public se donne plus généralement pour objectif de favoriser en Grèce et répandre de par le monde, de toutes les manières, le rayonnement de la culture grecque à tous les âges, classiques, byzantin et contemporain. Innombrables furent dans le passé nos confrères pour lesquels la Grèce a représenté un modèle d'inspiration indépassable. Les grands auteurs classiques, bien évidemment, mais aussi les romantiques, Chénier, qui emprunte à la littérature grecque quelques-unes de ses formes pour exprimer des pensées nouveaux, Chateaubriand, qui dans son itinéraire de Paris à Jérusalem a contribué à inventer le visage idéal d'une Grèce que les voyageurs et les écrivains n'ont plus cessé après lui de rechercher, et plus près de nous, Ernest Renan, Marguerite Yourcenar. Nous nous situons dans leur sillage. Pour le Grand Prix international pour le droit, nous remontons après nos illustres prédécesseurs, à la problématique lumineuse d'Aristote, je le cite, « Si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nullement besoin de la justice. Mais même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l'amitié. Et la justice, en son point de perfection, paraît tenir de la nature de l'amitié. Pour le Grand Prix international dédié à l'histoire, à l'archéologie, la philologie et les belles-lettres, nous retrouvons ce que j'appelle l'esprit de Kérylos. Notre villa grecque, construite par Théodore Rénac au siècle dernier, qui est à la fois un bijou et un rêve, et qui illustre, selon Jacqueline de Romilly, je la cite, « l'affirmation que l'on peut vivre en notre temps de l'héritage d'une civilisation qui fut le point de départ de la nôtre ». Ces prix sont une réponse juste aux craintes qu'inspire notre temps. Ce sont des prix internationaux qui favorisent les échanges entre les nations. Ce sont des prix généralistes qui équilibrent la place souvent prépondérante accordée aux sciences dites « dures » dans les grands prix, au détriment parfois des sciences humaines, de la richesse de notre patrimoine culturel et donc du dialogue entre les peuples. À ces deux grands prix considérables s'ajoute un projet de plus grande envergure encore. Il s'agit des dialogues d'Athènes que la Fondation Onassis entend créer dans la capitale grecque à l'automne 2010 sous la forme d'une conférence mondiale pour la culture et la civilisation. La Fondation Onassis a souhaité associer l'Institut de France comme partenaire pour la France aux côtés d'universités britanniques, américaines, allemandes et d'autres. Nous avons accepté de grand cœur, persuadés que le riche contenu intellectuel et le retentissement très actuel de la rencontre envisagée correspondaient exactement aux préoccupations de l'Institut de France et des cinq académies. Ce soir même, comme l'an prochain à Athènes, n'est-ce pas notre vocation même que d'apporter notre contribution à une réflexion large et sereine, s'inspirant des grands exemples du passé et portant sur les grands problèmes du moment. Notre confrère Jean d'Ormesson l'a écrit malicieusement, je le cite, « La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit, en permettant au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès. » Ce programme, c'est le programme de la Fondation Onassis, et c'est aussi le nôtre. Et c'est pourquoi nous vous invitons, mesdames et messieurs, à en franchir ce soir la première étape en compagnie de la Fondation Onassis et dans cette philia grecque, ce point de perfection où justice et amitié entrent en résonance et qui constitue le tronc commun de toute pensée humaniste. La parole est à M. Antoine Papadimitriou, président de la Fondation Aristote Onassis.
Monsieur et Madame le Ministre, Excellences, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels des trois académies, Mesdames et Messieurs les académiciens, Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs les membres de nos jurys, nos amis de la Fondation Onassis. Je voudrais tout d'abord remercier M. le Chancelier pour tous les compliments qu'il a eu la bonté de dire au sujet de la Fondation Onassis. La Fondation Onassis réalise depuis sa création en 1975 certains objectifs majeurs explicitement établis par Aristote Onassis dans son testament manuscrit. D'une part, la préservation, la diffusion et le rayonnement de la culture hellénique qui constitue la clé de voûte de nos sociétés, ainsi que, notamment, l'attribution des prix internationaux. Toutes les activités culturelles ou autres de la Fondation visent à soutenir des projets ayant un lien concret avec la Grèce ou la civilisation hellénique, considérée comme étant une des bases fondamentales du patrimoine commun de l'humanité. La culture, l'éducation, l'environnement, le progrès social sont les priorités à l'ordre du jour de la Fondation. Entre autres, par le biais de son programme de bourses et de subventions, la Fondation Onassis soutient la quête intellectuelle des étudiants et chercheurs du monde entier, désireux de découvrir in situ les traces du passé hellénique ou d'étudier dans son contexte géopolitique la République hellénique contemporaine. Le projet ambitieux de la conférence « Le dialogue d'Athènes » à laquelle M. le chancelier s'est référé juste avant et auquel l'Institut de France est associé vient cristalliser ses objectifs, relever les défis de notre temps après les avoir relus à la lumière de la culture grecque antique dans une optique diachronique et interdisciplinaire. Le Centre culturel Onassis d'Athènes, conçu comme un nouvel espace multiculturel, visera essentiellement à encourager la production d'œuvres de la culture grecque contemporaine et leur rayonnement hors de Grèce. La création du Centre culturel de la Fondation Onassis à New York, vibrant d'activités toutes rattachées à la culture hellénique, est une démonstration de la portée de cette vocation culturelle. Ces initiatives sont, permettez-moi de le dire, la preuve du dynamisme de notre fondation, prête à innover, à prendre des risques, à récompenser et à soutenir les œuvres et projets visant à retrouver la sagesse antique, une sagesse précieuse et souvent omise de notre époque de globalisation planétaire. Nous voulons transmettre aux jeunes générations la certitude qu'il y a, au-delà des frontières de l'intérêt des nations, au-delà des conflits sociopolitiques et religieux, un axe qui s'inscrit en filigrane là où notre société commune a édifié ses monuments artistiques, architecturaux ou intellectuels, plus ou moins fragiles. Cet axe détermine notre progrès au sens humaniste du terme. Nous sommes là pour préserver cet héritage et le perpétuer. C'est en cet esprit que sont remis aujourd'hui les prix internationaux Onassis. Les prix internationaux Onassis sont deux, le prix pour le droit et le premier prix universel dans cette discipline. Par cette définition même, il promeut le rôle du droit comme instrument de la coopération entre les sociétés et les nations. Nous sommes fiers qu'il soit décerné à Lord Thomas Bingham. Dans sa démarche, nous louons son effort pour surmonter l'antagonisme perçu dès l'Antiquité entre la dike, dike, l'immédiateté de l'éthique morale, du devoir du cœur, dans l'Antigone de Sophocle et l'expression, et le nomos, qui se veut la codification de la notion de justice. Une codification qui n'a de sens que dans la mesure qu'elle fait progresser le droit, et ceci, encore une fois, dans le sens humaniste du terme. Par exemple, les droits de l'homme, dont la France revendique, si j'ose dire, la propriété intellectuelle, ont cette valeur universelle. La présentation du patrimoine culturel grec et sa diffusion internationale étant une préoccupation majeure de la Fondation Onassis, notre prix Belles Lettres veut récompenser la contribution essentielle des deux lauréats ex aequo, Sir John Bondburn et le professeur Jean-Yves Empereur, pour leur contribution exceptionnelle au domaine de l'archéologie. Tous les deux ont travaillé en dehors de la Grèce classique et ont mis en valeur des places et des idées aussi modernes que diachrones. Dans ce lieu dédié aux lettres, aux arts et aux sciences, le prix Onassis présenté par l'Institut de France représente, et je cite les mots d'un poète grec moderne, Cavafi, le difficile et inestimable éloge du Dimos et des sages à nos lauréats. En grec, το δύσκολο και το ανεκτήμητο έβγε του Δήμου και των Σοφιστών. Je sais que beaucoup de vous ont compris. Cette cérémonie de remise des prix Onassis sous la coupole, lieu où siège le Parlement des savants, vient sceller le lien entre la tradition multicentenaire de l'Institut et notre fondation relativement jeune. l'adoption des prix Onassis par l'Institut est une démarche d'ouverture autant pour la Fondation Onassis que pour l'Institut de France. Les prix Onassis sont désormais protégés par les liens de l'hospitalité et nous sommes reconnaissants de l'accueil qui leur a été fait. Nous tenons en particulier à remercier le travail des deux comités de sélection, des membres des académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur et Madame le ministre, Excellences, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels des trois académies, Mesdames et Messieurs les académiciens, les membres de nos jurys, nos amis de la Fondation Onassis, je vous prie de partager avec nous ce moment exceptionnel et je vous en remercie.
Pour présenter le Grand Prix international pour le droit, interviendront successivement Sir Basil Marquesinis et M. François Théré. La parole est à Sir Basil Marquesinis, membre du conseil d'administration de la Fondation Onassis et du jury du prix Onassis pour le droit et correspondant de l'Institut.
Excellence, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Mesdames, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, Monsieur le Président de la Fondation Onassis, Mesdames et Messieurs, l'humanité de Lord Bingham et son souci pour une justice qui puisse être comprise par les gens ordinaires, y compris les litigants, et non par voie de construction abstraite, voire sèche, qui ont si souvent trouvé grâce auprès de ses collègues, ont fièrement confirmé son attachement au principe moral « neminem ledere », à moins que des raisons politiques impérieuses ne s'opposent à la reconnaissance de leur responsabilité civile. Voici que l'a mené à se rapprocher plus de nous en Europe et de la Cour européenne de droits de l'homme et de Strasbourg que de juristes anglais traditionnels. Pour un pays comme la France, avec son système juridique civil et administratif, une telle approche paraît bien évidemment raisonnable, mais pour l'Angleterre, cette approche a été innovante et l'a souvent placée dans la minorité. La réticence anglaise à traiter tout damnum comme une injuria a une longue histoire, et l'histoire où, en termes juridiques, le précédent est parsemé de difficultés en droit anglais. Au plan de concept, ceci s'exprimait par la négation de la formule apparemment simple de l'article 1382 du Code civil, qui annonce presque comme une conclusion mathématique que la faute plus la cause plus le dommage nous conduit à réparer. L'explication doit être trouvée en ce que le droit anglais utilise le concept sans forme de devoir de prudence, duty of care, qui laisse au juge le rôle de définir le type de relation et d'intérêt juridiquement protégé. Infliger négligemment un dommage n'est pas ainsi suffisant en droit anglais pour générer la responsabilité civile. Il est difficile d'expliquer à des auditeurs français et même impossible de trouver une traduction exacte en français de terme « duty of care ». Pourtant, si l'on change les mots et les concepts pour une compréhension fonctionnelle du droit, ce que le juge s'efforce de faire, nous voyons que même le droit français a parfois été tenté de recourir à des considérations de politique judiciaire plus larges pour remplacer la rédaction simple de l'article 1382. On pourrait appeler ces raisons politiques la politique judiciaire, et vous savez tous comment le professeur Josserand, le juge, le membre de la Cour de cassation, un catholique fervent, mais un juriste socialisant, a permis à ses opinions sur le concubinage d'influencer le droit civil français. Dans la mesure, donc, où le devoir de prudence n'existe pas dans le vocabulaire juridique français, le droit français a interprété la notion de dommage de manière normative et non factuelle et a dit qu'un dommage qui n'est pas légitime, juridiquement protégé, ne pouvait être réparé par les tribunaux. Les réclamations des maîtresses privées de soutien de leur amant devinrent un sujet de controverse aiguë en France jusqu'à 1970, quand, enfin, la Cour de cassation, dans une affaire célèbre, et je m'amuse avec le nom de la démandresse, Mademoiselle Dangereux, a reconnu aussi ouvertement qu'elle peut que la condition supplémentaire imposée par Josserand était une interprétation inacceptable. En Angleterre, nous restons évasifs. Nous ne parlons pas, nous parlons rarement de maîtresse, et encore moins faisons procès à ce propos. Mais nous faisons des procès pour la propriété terrienne. Et à cause de la faveur donnée aux propriétaires sur les victimes d'accidents sur leurs terres, pendant de nombreuses années, nous n'avons pas accordé réparation à ceux qui, sans être autorisés pour le maître de lieu, étaient blessés sur la propriété d'autrui, même quand c'était par la faute du propriétaire. Nos tribunaux parlaient d'une absence de devoir de prudence due à telle personne, qu'il s'agisse d'intrus innocents, comme des enfants égarés, ainsi que des gens animés de mauvaises intentions, comme les voleurs. En France, vous auriez dit qu'il n'y avait pas d'intérêt légitime juridiquement protégé. Les mots sont différents. Le résultat est le même. En droit romain, c'est le damnum sine injuria, et ce n'est pas assez. Sur le point auquel je viens de faire allusion, le droit avait changé avant l'époque de Lord Bingham. Mais le problème persiste et demeure non résolu quand la question est celle de responsabilité des collectivités publiques pour le dommage causé par la négligence de l'autorité, par le manque ou la mauvaise exercice de ses pouvoirs discrétionnaires. Les policiers qui ont failli à empêcher un meurtre ou un cabriolage, les pompiers à éviter un accident, les autorités locales qui n'ont pas effectué de travaux d'entretien sur une route dangereuse entraînant des accidents, ont toutes été jugées irresponsables. Le cas le plus cruel sont ceux où les collectivités locales ont, de manière négligente et persistante, failli à leur mission de contrôle des services sociaux, n'empêchant pas aussi la mort horrible de jeunes enfants innocents qui ont été l'objet de maltraitance de la part de leurs parents. Bien qu'il y ait eu des hauts et des bas dans ce genre d'affaires, le droit anglais, pour des raisons politiques judiciaires, refuse toujours, par principe, d'imposer une responsabilité civile dans de tels cas. Lord Bingham était l'exception lumineuse, et l'un de ses récents jugements mérite que nous y arrêtons, même brièvement, car vous y découvrez l'homme, ce sens de devoir, sa manière de raisonner et son intérêt pour le droit comparé, de tout réunir pour faire justice. C'est l'affaire de East Berkshire Community Health Hospital. Sous ce nom, trois affaires sont venues devant la Chambre de Lords, impliquant les enfants souffrant de diverses maladies qui ont entraîné des symptômes physiques que le médecin des services de santé ont négligemment diagnostiqué comme étant des symptômes d'agression sexuelle. Les parents furent des différentes matières réprimandées à tort ou empêchés de voir leurs enfants ou constatèrent que leurs enfants avaient été catalogués comme enfants nécessitant protection contre leurs parents. La fausseté de leur mauvais diagnostic fut cependant établie et les sanctions auxquelles je fais allusion levées. Les parents est entière alors une action en réparation de troubles physiques et mentaux causés par ces décisions. Suivant une acception traditionnelle de la common law, les juges prirent en considération tous les précédents en matière et trouvèrent qu'il n'y avait aucune responsabilité au motif, et je cite, qu'il n'y avait pas de devoir de prudence dû aux parents. Ceci, comme on a vu, est le mécanisme qui permet aux juges anglais d'eux-mêmes refuser de prendre l'affaire, recueillir des preuves ou entendre les arguments des parties. Car pour des raisons de politique juridique, ils considèrent qu'une telle action ne serait pas par principe, et je cite encore une fois, juste, équitable et raisonnable. Ce pouvoir d'arrêter toute procédure est basé sur des considérations qui pourraient toutes être appelées des raisons de pure convenance administrative. Brièvement, celles-ci sont les suivantes, les arguments de politique judiciaire d'après les cours d'Angleterre. Primo, le danger d'interférer dans l'action administrative qui évalue ces incidents. Deuxièmement, le danger de rendre les fonctionnaires frileux et inactifs de peur d'être poursuivis. Troisièmement, l'augmentation vraisemblablement de coûts exposés par les autorités locales qui pourraient menacer les finances publiques. Quatrièmement, l'existence de moyens de réparation alternatifs, tels de contrôle parlementaire, qui n'auraient pas de mêmes conséquences drastiques sur le plan financier. Ce sont des arguments qui ne sont pas dénués de valeur. Et au total, s'ils ne figurent pas dans les décisions des tribunaux des autres pays européens, je crois que c'est le cas pour vos cours, ils apparaissent sporadiquement dans les livres, dans les monographies ou textes législatifs préparatoires, comme c'est le cas de l'Allemagne. Alors, c'est la manière de raisonnement de Lord Bingham qui est très intéressante et qui s'exprime sous la forme de 5 dialogues. Un éloge n'est pas le moment d'apprécier la valeur du raisonnement. L'orateur, dont l'ensemble, bien qu'il comprenne les arguments de la majorité des juges dans l'arrêt, ne le trouve pas convaincant. Globalement, c'est également le cas de Lord Bingham. Son opinion exprimée avec soin requiert une lecture attentive. Ses conclusions traduisent que ses préférences instinctives sont proches du droit européen. Et pour cette seule raison, sont remarquables en révélant son indépendance et ouverture d'esprit. Pourtant, je souhaiterais me concentrer sur un autre aspect de son jugement qui appelle notre attention et notre admiration. Dans les grandes lignes, le raisonnement de Lord Bingham correspond à la méthode inductive de raisonner de la common law et non à la méthode déductive du système civiliste. Ce qui est instructif, c'est toutefois le fait que son opinion comporte 5 dialogues argumentés de manière serrée qu'il conduit avec différentes personnes avant d'atteindre ses conclusions. Je pense que cette caractéristique marque l'une des plus importantes différences entre le common law et les droits européens modernes. Les différences dont les concepts et les mots sont relativement parlant peu significatives, car pour arriver à leur décision, les juges, dont chaque système utilise tout concept que le système a mis à leur disposition. Un juge déterminé pourra toujours utiliser ou détourner un concept existant pour insérer dans sa décision la raison de politique judiciaire qui, en fin de compte, guide son jugement. Nous avons déjà noté comment la jurisprudence française y est arrivée en faisant un emploi abusif de la notion du dommage par l'ajout des mots « l'intérêt légitime juridiquement protégé ». La différence avec le droit anglais est ainsi seulement apparente. Les Anglais ont ce que les Français n'ont pas, un concept qui les autorise à empêcher les procès. En effet, ceci crée différents types d'immunité qui, à mon avis, mais pas dont le bien d'autres, pourraient être perçus comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et de son article 6 tout particulièrement. Que dire du style du jugement? Ceci est très différent à la différence, et la différence est dictée par nos traditions historiques différentes. Le recours au jury, la nécessité qui en déroule d'une procédure orale, la possibilité la règle d'autoriser une décision majoritaire ou des opinions dissidentes, tout contribue à expliquer ce jugement en forme de dialogue. Les dialogues que le juge anglais, métaphoriquement parlant, tient ainsi, qui sont reflétés dans ce jugement, sont les suivantes. Le dialogue avec le conseil qui lui plaide l'affaire, principalement par oral. Le dialogue avec les autres membres de la cour avec lesquels il peut être en désaccord, auquel cas il se doit de leur expliquer ainsi qu'au parti des raisons de ce désaccord. Troisièmement, dialogue avec les juges qui sont les auteurs de la jurisprudence antérieure et avec les opinions desquelles il peut être en désaccord, auquel cas il doit expliquer pourquoi il n'est pas lié par leurs précédents. Quatrièmement, dialogue avec ceux que j'appellerai les générations futures, par quoi je veux dire un raisonnement qui s'intéresse aux conséquences qui découlent de la décision à prendre, rarement ouvertement trouvée dans les jugements de la tradition civiliste. Assez simplement, il s'agit d'un argument qui prend la forme d'une question. Si j'autorise le demandeur à rapporter son affaire, quelles conséquences aura mon jugement sur les futurs litigants et notamment pour les défendeurs? Est-ce qu'un jugement en faveur du demandeur ouvrira, comme nous disons en Angleterre, les portes à un flot de procédures? Et peut-il mettre des futurs défendeurs qui seront dans la même situation en état de cassation de paiement? À ce type de raisonnement, nous devons ajouter et même souligner, encore une fois, l'entreprise innovante de Lord Bingham de citer les exemples étrangers en la matière, qui, nous l'avons dit, sont différentes. Ceci est en effet la cinquième et le dernier dialogue de Lord Bingham où, métaphoriquement parlant, il converse avec ses collègues, juges, et professeur étranger et décide de quel poids il veut accorder à leur point de vue. Voici que nous amène à nous pencher sur les vues de Lord Bingham sur la manière dont le droit comparé doit être utilisé, prouvant une nouvelle fois la maturité de sa façon de penser sur ce sujet. Et si, ainsi, dans l'affaire Fairchild, il a lui-même utilisé la jurisprudence de tribunaux français, allemands, australiens, canadiens et américains. Il a cité les plus importants ouvrages des comparatistes européens et il a fait allusion aux décisions des 12 pays différents, à savoir l'Autriche, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Pays-Bas, la Norvège, l'Afrique du Sud et la Suisse, et dont l'Italie, l'Afrique du Sud et la Suisse notant des solutions différentes. Tout cela démontre, à mon avis, son esprit ouvert, sa culture énorme. Mais, en plus, il nous a donné dans son jugement des conseils importants concernant le cours au droit étranger. Je cite, et je suis presque fini, je cite une de ses règles qui me semble important et que je me permets de vous conseiller à lire très attentivement. Je cite Lord Bingham, le développement de la règle de droit dans ce pays, c'est-à-dire l'Angleterre, ne peut bien sûr dépendre du comptage des décisions et des codes adoptés dans les autres pays à travers le monde, souvent dans un contexte de traditions et des règles différentes. Très importante, à mon ami, cette nécessité impérieuse d'étudier le droit dans le contexte social et politique de notre pays. Le droit doit se développer de manière cohérente, en accord avec les principes, de manière à servir impartiellement le but de la justice. Si cependant une décision est rendue dans ce pays qui offense le sentiment de justice et que la prise en considération des sources internationales suggère qu'une solution différente est plus acceptable, sera prise dans la plupart des autres pays, quelle que soit leur tradition juridique, ceci doit susciter une impatiente révision de la décision en cause. Dans un monde qui rétrécit, il doit y avoir quelque vertu à l'uniformité de résultats, quelle que soit la diversité d'approches pour atteindre un tel résultat. Mesdames, Messieurs, nous félicitons Lord Bingham en public à cette cérémonie solennelle et ceux d'entre nous qui représentent la Fondation Onassis souhaitent également exprimer leur remerciement pour la manière avec laquelle le chancelier de l'Institut et mon cher confrère, M. De Breuil, ainsi que l'ancien président de l'Académie des sciences morales et politiques, mon confrère et cher ami François Théré, ont facilité, grâce à leur remarquable talent administratif, à la première remise rapide et aisée du prix Onassis pour le droit. Merci.
La parole est à Monsieur François Théré, membre de l'Institut, membre du jury du prix Onassis pour le droit.
Monsieur le chancelier, Excellences, Madame et Monsieur le ministre, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, tous les juristes ici présents et même les non-juristes, je dois intervenir très rapidement pour expliquer de quelle manière notre choix s'est produit. Choisir un scientifique, un médecin, un biologiste ou encore un physicien pour lui accorder un prix international ou universel, c'est relativement une œuvre surmontable. Mais quand il s'agit de choisir un juriste, la difficulté est bien plus grande, car l'infinie diversité due au temps et à l'espace des relations qui innervent les sociétés humaines constitue un défi à l'entendement d'un juriste. Ce défi a été relevé. Si la présente séance sous la coupole constitue un couronnement sans égal, c'est parce que dans notre époque où les lois et les jugements perdent leurs repères, le choix d'un juriste n'en est que plus problématique. Mais après tout, ce que l'on sait faire en littérature, on doit bien pouvoir le réaliser en droit. N'est-il pas à cette manière une grammaire de la société ? C'est désormais chose faite par les soins notamment de la Fondation Onassis, dont je félicite et remercie le président, par les soins aussi de ce précédent orateur, par les soins aussi de l'Institut, de l'Académie, des Académies, par les soins aussi, peut-être aussi, du protecteur de notre Académie, le président de la République, qui n'a pas été non plus complètement étranger au fait que le prix en question soit remis sous la coupole. Outre vos vertus et vos talents, Lord Bingham, rappelée par l'orateur qui m'a précédé, une considération transcende le choix du jury. Votre excellence en droit interne ou international, votre compétence incontestée en droit comparé, en tant que juge aussi, et quel juge ? En tant aussi qu'universitaire, puisque vous avez présidé aux destinées de l'Université d'Oxford, tout cela conduit naturellement à la fantaisie de l'histoire et qui a orienté les voies différentes du common law, pas de la common law, du common law, s'il vous plaît, et d'autre part du droit romain, disons encore du droit continental, pour parler le langage contemporain. Différence entre vous et nous, entre nous et vous, sur les chemins du droit. Différence aussi les places respectives du juge et du législateur, héritage de révolutions différentes. Différence d'expression, de démarche, oscillant du case law au statute law. Dieu est mon droit, dites-vous. Mais y a-t-il deux dieux et deux droits ? Et alors, notre temps traduit, qu'on le veuille ou non, un rapprochement des itinéraires, des méthodes et des trajectoires. Celle aussi des concepts, que ce soit ou non par l'importance grandissante des human rights, que ce soit aussi par l'effet d'un rapprochement inconscient et permanent qui conduit à renouveler et à renforcer le rôle du juge dans la société française, dans le même temps que le rôle des lois développait aussi son emprise outre-Manche. Et c'est pourquoi, dans cette rencontre que nous organisons, qui est organisée aujourd'hui sous l'égide de la Fondation Onassis et de l'Institut de France, il est temps peut-être de laisser place à l'art et à la poésie. La beauté et la pensée permettent de sublimer nos variations respectives, les jardins surtout, qui traduisent l'esprit heureusement fantaisiste à ces heures de ce qu'on dit être le droit. Le droit français est un jardin cartésien et se doit de le rester. Le droit anglais se retrouve dans les jardins à l'anglaise. L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse trouvent dans la poésie de leur rencontre la source d'une culture inachevée. Alors, votre présence ici en témoigne, Lord Bingham. On songe ce qu'auraient été vos prédécesseurs juristes si, dans des temps plus anciens, il eût existé des prix Onassis de droit. Songeons à Bentham. Songeons aussi à Bentham qui avait voulu obtenir la nationalité française. Songeons à Bentham, mais à beaucoup d'autres encore, et pour ceux qui ont eu le plaisir de participer aussi aux activités universitaires de droit comparé à Strasbourg, mais bien ailleurs aussi, dans des universités anglaises, Cambridge ou Oxford. C'est le souvenir, ce sont les souvenirs qui remontent à la mémoire de tant de grands juristes qui nous ont appris beaucoup lorsqu'il y avait 50 ans, nous étions leurs étudiants. C'est Hamson, c'est Lawson, c'est Guthridge, c'est Wortley, c'est beaucoup d'autres juristes de l'autre côté de la Manche qui ont entretenu cette relation infiniment précieuse dans la diversité même de leurs talents et de leurs idées entre nos deux pays. Et à tant de livres, à tant de messages, à tant d'instructions renouvelées de part et d'autre, il faut bien dire que vous êtes vous-même le représentant aujourd'hui le plus éminent et le plus illustre d'une entente plus que cordiale. Soyez donc le bienvenu.
J'invite à la tribune Lord Bingham of Cornhill, ancien président de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, ancien premier juge de la Chambre des Lords, lauréat du prix Onassis pour le droit.
Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de regret que je dois troubler cette prestigieuse cérémonie en parlant dans ma langue maternelle. Hélas, le manque de maîtrise de votre langue ne me donne aucun choix que de chercher votre indulgence à cet égard. May I preface my remarks
by en guise de préambule, j'aimerais rendre hommage à la Fondation Onassis pour sa vision, pour sa générosité, elle qui a su créer un prix international pour le droit. À tous ceux qui pensent que le respect du droit est une condition liminaire de la bonne gouvernance dans le pays, condition également de la paix, la compréhension, de la coopération entre nations sur la scène internationale, je suis certain que le prix Onassis sera source d'inspiration, de même qu'un défi et un souvenir bienvenu de notre héritage helléniste. Mes remerciements vont également à l'Institut de France pour l'honneur qui m'est rendu et à son comité de sélection. Je ne souhaite pas lasser ce parterre distingué en expliquant pourquoi je suis si peu digne de recevoir un tel honneur, et je ne souhaite pas non plus m'étendre sur la grande générosité des deux panégyriques que nous venons d'entendre. Conscient des remarques de La Rochefoucauld qui disait que refuser l'éloge, c'est inviter sa répétition, je me contenterai donc d'exprimer l'espoir nourri de confiance que ceux qui me succéderont en tant que lauréats seront peut-être plus distingués que leurs prédécesseurs et plus dignes de recevoir cette distinction. Il y a un peu plus de 50 ans, j'ai commencé à travailler comme avocat et je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu travailler à la fois comme juge puis comme juge. À la fois comme avocat puis comme juge dans la période qui a suivi. J'ai pu assister à un véritable changement de la culture juridique que, rétrospectivement d'ailleurs, on peut estimer encore plus important que nous le pensions à l'époque. Une transformation du droit non seulement au Royaume-Uni, mais également dans quasi tous les pays, si ce n'est tous les pays ailleurs. Un élargissement des horizons, une volonté accrue d'apprendre les uns des autres, un souhait tout à fait conscient de collaborer. Il y a 50 ans, le droit anglais était surtout retourné vers lui et à tendance nationaliste. Les tribunaux étaient priés d'appliquer les décisions du Parlement britannique et il le faisait en essayant de comprendre l'esprit de ce qui avait été adopté par le Parlement en essayant d'appliquer la règle du droit de manière peut-être plus littérale d'ailleurs que ce serait le cas dans le reste de l'Europe. Et puis le juge développait également et appliquait consciencieusement le common law se référant et s'appuyant à l'occasion sur les décisions prises aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, des pays qui étaient considérés comme dérivant la plupart de leurs droits de la Grande-Bretagne. En revanche, il n'y avait jamais de référence faite au droit civil appliqué dans les principaux pays européens. Les codes civils français et allemands étaient, de manière générale, des livres que l'on ouvrait et que l'on se gardait bien de consulter. Toutes les questions de droit international, qu'elles proviennent du droit des traités ou du droit international coutumier, étaient parfois présentées et la Cour en était, les tribunaux en étaient saisis, mais ces circonstances étaient rares et les tribunaux, dans ce genre de circonstances, tendaient à être autant respectueux de leurs propres précédents que des décisions de droit international. Sont arrivées ensuite les décisions en matière de droits de l'homme, bien qu'il n'y ait pas d'équivalent de déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Les Britanniques étaient fiers néanmoins des protections qui étaient octroyées aux citoyens par le common law et pensaient qu'ils avaient retiré des pratiques d'autres pays. Il y aura eu des changements qui ont joué le rôle de catalyseur, à savoir l'accession de quasiment tous les États européens, à l'exception de la Suisse et de la Norvège, à la communauté européenne, cette adhésion, et puis également une progression et une multiplication et un élargissement du champ d'application des conventions internationales, et le travail également de spécialistes du droit comparé, tels que Sir Basil en particulier. Dans ce contexte, les juristes et juges d'un pays sont exposés évidemment à la manière de penser et aux décisions de juges telles qu'elles ont été prises dans d'autres pays. Ils se rencontrent, ils débattent, ils s'intéressent et se penchent sur les mêmes affaires, ils sont confrontés aux mêmes problèmes, et ce faisant, ils trouvent dès lors des vertus tout à fait insoupçonnées à d'autres régimes juridiques, à d'autres systèmes de droit, et ils trouvent également des faiblesses qu'ils n'auraient pas soupçonnées dans leur propre système juridique. Il reste vrai néanmoins que la plupart des affaires traitées par les cours, par les tribunaux nationaux sont en application du droit national et du droit interne. Mais si la décision rendue au titre du droit interne apparaît injuste ou si le droit interne ne semble pas donner de réponse claire, eh bien, en telles circonstances, les juges ont montré de plus en plus leur volonté d'apprendre et de tirer les enseignements qu'ils peuvent retirer à la fois des raisonnements et des décisions prises par des tribunaux en d'autres lieux, quelle que soit d'ailleurs la tradition juridique à laquelle appartiennent ces tribunaux, reconnaissant ainsi que la sagesse peut exister partout, comme c'est le cas dans toute autre branche de l'art ou des matières scientifiques, que la sagesse donc ne se limite pas aux frontières nationales. De la même manière, lorsqu'il s'agit d'interpréter les conventions internationales dans toute une série de domaines, comme la reconnaissance des réfugiés ou l'enlèvement des enfants, eh bien, les tribunaux nationaux n'hésitent pas à reconnaître la valeur de certains instruments et ils vont rechercher la collaboration de ceux qui ont participé à la création de ce droit, reconnaissant bien évidemment qu'ils ne vont pas accepter de manière invariable et automatique les décisions qui auront pu être prises par les tribunaux d'autres pays. Le droit international des droits de l'homme, inscrit dans la superbe déclaration de 1948 et qui a ensuite vu une application concrète à travers des conventions locales de par le monde, probablement surtout à travers la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention a amené chacun des pays concernés, quel que soit son respect pour les droits de l'homme, reconnaître avec le poète Homère que, à l'occasion, bonus domitat homerus. Sans aucun doute, d'aucuns regrettent cette dilution de cette pureté du droit national. Ils vont refuser toute atteinte à la forteresse du droit national. Je ne suis pas de ce nombre. Et je pense que la Fondation Onassis et l'Institut ne sont pas non plus du nombre. Bien évidemment, les juges sont tenus d'appliquer le droit national de par leurs fonctions, mais Sans faire violence à ce droit national, ils peuvent également s'inspirer de la sagesse, de l'expérience d'autres qui se trouvent dans d'autres pays qui ont rencontré le même problème. Ceci me semble à tous égards tout à fait souhaitable. Ceci pour aider le droit à réaliser son potentiel de pont et non pas d'entrave et de barrière, un symbole de ce qui doit unir plutôt que de nous séparés, et c'est nourri de cette croyance que j'accepte avec reconnaissance ce prix prestigieux. Je remercie la Fondation et l'Institut pour la chaleur de leur accueil et la générosité également avec laquelle ils m'ont accueilli ainsi que ma famille.
Pour présenter le Grand Prix international pour les belles-lettres, interviendront successivement M. Vassilis Lambrinoudakis et M. Jacques Joanna. La parole est au professeur Vassilis Lambrinoudakis, correspondant de l'Institut.
Excellences, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président de la Fondation Nassis, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels des trois académies, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs. Conformément à la définition du prix international Onassis pour les belles lettres de l'Institut de France, ce prix doit être décerné à des personnalités éminentes dont le parcours intellectuel a eu pour objectif de promouvoir le patrimoine commun de l'humanité fondé sur la civilisation hellénique par une œuvre exemplaire dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de la philologie et des belles-lettres. Sir John Boardman incarne pleinement cette personnalité idéale à laquelle aspire le prix. Sir John Boardman est considéré comme l'archéologue britannique incontesté de notre temps, mais aussi comme l'un des chercheurs les plus significatifs à l'heure actuelle dans le domaine de l'archéologie classique au niveau international. Bien que principalement spécialiste de l'époque classique, il a apporté une contribution essentielle dans le domaine de l'archéologie minoenne, de l'archéologie mycénienne, de l'archéologie de la période proto-hellénique et en général dans l'histoire de l'art antique, de l'art grec antique, dans l'étude des sceaux, des bijoux, de la céramique et de la sculpture grecque antique. Il a étudié, comme peu d'autres, la diaspora des Grecs dans l'Antiquité et leur rapport aux autres peuples, en particulier ceux de l'Orient. En dehors de nombreuses études spécialisées dans le vaste champ de recherche évoqué ci-dessus, le professeur Sir John Boardman a également publié un nombre impressionnant de livres de synthèse sur l'Antiquité qui représentent des ouvrages de référence pour les spécialistes tout en restant accessibles au large public, lui permettant ainsi d'approcher et d'estimer la tradition grecque antique. Tels sont ses manuels sur la sculpture et la céramique antique qui, depuis des années maintenant, sont considérés comme les plus fiables et en même temps les plus attirants dans ce domaine. Tels sont aussi d'autres ouvrages comme « The Oxford History of Classical World »,« The Greeks Overseas »,« Persian the Greeks »,« The Diffusion of Classical Art in Antiquity ». Ces livres, traduits et publiés dans la plupart des langues européennes, tiennent place d'ouvrages de référence dans le monde entier. L'approche du monde antique par Sir John Boardman débute par l'étude de l'objet archéologique et aboutit à des synthèses qui permettent de compléter notre connaissance de l'histoire de ce monde, servant de la sorte l'objectif véritable de l'archéologie. Parmi les autres nombreuses activités du professeur Boardman, je n'en citerai que trois par respect du temps imparti. Il a organisé des fouilles importantes à Smyrne, à Chios, en Crète et en Libye. d'une importance majeure pour la recherche et sa contribution à l'organisation et fonctionnement des archives Bisley à Oxford, banque de données unique pour la céramique grecque antique, qui sert à l'ensemble des chercheurs dans ce domaine. Déterminante fut et est aussi, encore, sa contribution à la composition et la publication du Lexicon iconographicum mythologiae classicae et du Thesaurus cultus et ritum antiquorum, deux des œuvres de référence les plus importantes de notre temps. Sir John reste un chercheur créatif et actif. Je viens d'apprendre qu'il prépare maintenant un livre sur les relations des Grecs avec Chine. Un autre aspect de la personnalité du professeur Boardman est le fait qu'il est un maître particulièrement charismatique, et cela pas seulement au sein de l'Université d'Oxford. Ses étudiants, en nombre impressionnant, sont répartis aux quatre coins du monde et se distinguent parmi les jeunes chercheurs ou ceux ne dépassant pas la cinquantaine, les plus accomplis dans le domaine de l'archéologie du monde antique. Il a lui-même voyagé et voyage encore dans le monde entier, diffusant la connaissance par son enseignement, ses conférences, ses collaborations et ses entretiens, et soutenant la recherche sur l'art et la vie de la Grèce antique. L'immense contribution du professeur Boardman à la science et au rayonnement de la culture grecque antique dans le monde entier est largement reconnue et a été consacrée par des distinctions et titres d'institutions et d'académies d'importance internationale. L'honneur qui lui est rendu aujourd'hui par deux institutions d'envergure, l'Institut de France et la Fondation Onassis, représente une reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la recherche et à la diffusion des connaissances du monde classique. Merci.
J'invite à la tribune Sir John Boardman.
Mr. Chancellor, Mr. President,
Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les académiciens, je ne sais pas si je crée un président intéressant en remerciant à titre essentiellement autobiographique, mais ceci va pouvoir exprimer à la fois la fascination et l'importance des études grecques, y compris dans le monde moderne, laquelle a été reconnue par cette initiative lancée par la Fondation Onassis et par l'Institut de France. Évidemment, pour moi, c'est un honneur exceptionnel et un grand plaisir aussi d'être récompensé de la sorte par une fondation qui est établie en Grèce, pays où j'ai passé un certain nombre d'années heureuses de ma vie et dont l'histoire et l'art ont été un objet d'étude pour moi depuis si longtemps. Et que ceci se déroule en plus dans la ville la plus civilisée du monde moderne, gardienne du savoir du monde entier, du monde ancien, Athènes, Paris, un couple admirable. Et pourtant, d'une certaine manière, il est encore plus extraordinaire pour moi d'être aujourd'hui récompensé pour ce que j'ai toujours aimé faire, ce que j'ai toujours choisi de faire, et pour cette chose que j'ai d'ailleurs même du mal à bien abandonner, y compris pour me donner le plaisir de la retraite. Comment ça a-t-il été possible? C'est difficile à expliquer, mais ceci me donne à réfléchir en tout cas. Lorsque j'avais 8 ans à peu près, mon père m'a emmené un jour au British Museum. Nous avons vu les sculptures grecques et assyriennes. Et ensuite, nous sommes allés au musée Albert et Victoria, où j'ai été très, très bouleversée par la sculpture colossale du David de Michel-Ange. Peut-être ces deux visions ont-elles eu un effet sur moi. Quoi qu'il en soit, à l'école, le professeur de grec a commencé commencé son premier cours en présentant l'alphabet grec. Et dès le deuxième cours, il a écrit sur le tableau des lignes d'Homère et nous a montré comment très bientôt nous serions en mesure de lire et d'apprécier l'Iliade par nous-mêmes. Cela, c'est, ce fut une expérience à couper le souffle. Pourtant, le premier ouvrage que je me suis acheté portait sur la peinture chinoise. Malheureusement, mon père n'a pas vécu suffisamment longtemps pour me voir faire mes premiers pas dans mes études de grec, mais ma famille a toujours été un élément central de ma carrière, peut-être et surtout ma femme, une artiste tout à fait non académique qui m'a aidé à comprendre comment je pouvais utiliser et mes yeux et mes mains de manière efficace. Les jours passés pendant la guerre à Londres étaient des journées excitantes à bien des égards, mais lorsque je suis arrivé à Cambridge, je me suis rendu compte qu'il y avait plus qu'Homère dans la culture grecque. Il y avait également de l'art et qu'il y avait le moyen de s'approcher de ces gens, de ces Grecs, en apprenant non seulement leur littérature, mais également leur expression artistique. À partir de ce jour, je me suis approchée de la culture hellénique. La première fois que j'ai quitté l'Angleterre, c'était pour me rendre en Grèce. Et la première nuit que j'ai jamais passée en dehors de l'Angleterre, c'était en 1948. Et c'était à Paris, non loin de la gare de Lyon. Je me rendais alors à Marseille. Au milieu des années 40, la Grèce était encore en guerre, si l'on peut dire. Et j'ai eu le privilège de voir ce pays se réinventer pour devenir un État moderne. J'ai eu la chance de voir Athènes se développer, elle qui est une petite ville de taille relativement moyenne, à une grande métropole qui embrasse l'ensemble de la plaine attique. J'ai pu voir ses musées rouvrir. J'ai ensuite envoyé mes élèves sur place étudier après l'avoir fait moi-même. Mais la Grèce est beaucoup plus que la terre de la Grèce en tant que telle. En tant qu'archéologue, bien sûr, les fouilles m'ont mené en dehors de la Grèce, à Smyrne, et plus tard sur le littoral de la Libye. Les réalisations de la Grèce ancienne se sont faites en partie dans l'emplacement actuel de la Turquie et en Italie. Et l'archéologue apprend plus vite encore que le littérateur qu'il faut quitter les frontières et oublier les frontières pour suivre cette culture grecque à la manière des Grecs qui ont toujours su quitter leur terre et se rendre loin pour y revenir un jour. Au début de mon séjour en Grèce, j'ai rencontré un vieil homme à côté de Naxos qui m'a dit qu'il avait été avec le général Kitchener à Khartoum, avec son père à l'époque, qui vendait la limonade aux soldats britanniques à un prix moindre que celui qui était proposé par les Turcs. Exemple même du succès commercial des Grecs dès l'Antiquité et encore aujourd'hui. Les Grecs ont toujours été prêts à reconnaître la dette qu'ils devaient aux civilisations de l'Égypte et de l'Orient. Mais il faut reconnaître que ce flux s'est fait également dans l'autre sens. Et que ces flux sont extrêmement intéressants à étudier pour le spécialiste de l'archéologie. Et en me rendant en 1968 en Afghanistan, j'ai pu voir ce qui avait été fait par les Grecs sous Alexandre le Grand et dans quelle mesure ils avaient influencé l'expression artistique de l'Asie centrale et de l'Inde du Nord. Les Anglais ont toujours été fascinés par l'Orient, par... À bien des égards, de nombreux traducteurs et universitaires étaient également des spécialistes des fouilles qui ont pu parfois explorer les reliques physiques de ce qui autrement n'était qu'un simple souvenir historique de la présence grecque en Asie, des zones qui avaient été considérablement étudiées par les archéologues français essentiellement. Des voyages explorations archéologiques doivent se faire parfois dans les bibliothèques, dans les musées, mais aussi sur le terrain. Et deux semaines en Perse m'ont ouvert les yeux sur ce que l'Empire perse avait réalisé, et j'ai compris également dans quelle mesure, au plan architectural et archéologique, il devait à la présence des étrangers, y compris, et c'était parfois inattendu, à la présence des Grecs. Un voyage plus long que j'ai pu faire avec ma fille qui est ici présente ce soir, un voyage en Chine à travers ces déserts, m'ont amené au-delà, peut-être pas autant au-delà que ça, de la sphère d'influence grecque. Car après tout, même l'art de la Chine est après tout empreinte de cette présence grecque à travers les liens qui ont lieu avec les autres Occidentaux, lesquels étaient eux-mêmes imprégnés de cette culture grecque. Le plaisir de partager ses connaissances avec les autres à travers l'enseignement, la publication, c'est un plaisir qui s'est développé au fil des temps. Donc c'est un petit peu étrange pour moi aujourd'hui de me voir récompensé pour avoir eu la possibilité de faire ce que j'ai toujours voulu faire. C'est quelque chose qui m'a donné tellement de plaisir et de satisfaction. Et c'est une grande satisfaction de savoir que ma famille, y compris la famille des étudiants, partage avec moi ce plaisir et cette expérience et ce plaisir que j'ai vécu au fil des années et qui ne fait que se renforcer au fil des années. Merci.
La parole est à M. Jacques Joanna, membre de l'Institut, membre du jury du prix Onassis pour les belles lettres.
En tant que porte-parole du jury du prix des belles lettres de la Fondation Onassis, au moment de présenter le second des deux lauréats que ce prix honore, Jean-Yves Empereur, fondateur et actuel directeur du Centre d'études alexandrines, je voudrais dire d'emblée ce qui a séduit le jury. C'est d'abord un helléniste formé dans un cursus d'études classiques qui représente brillamment l'érudition française à l'étranger. C'est ensuite un archéologue de terrain qui, à la tête d'une équipe innovante et efficace, a fait des découvertes retentissantes sur mer comme sur terre. C'est enfin l'historien et l'homme d'action qui sait fédérer les énergies, diffuser les résultats de ses recherches et aménager le territoire, reliant ainsi le passé au présent. Né au milieu du siècle dernier, Jean-Yves Empereur a fait ses études à la Sorbonne, où je me souviens de l'avoir eu comme brillant étudiant de grec. Il était agrégé de lettres classiques, c'est-à-dire de français, de latin et de grec. Puis il s'est spécialisé en archéologie par sa thèse de doctorat d'État en 1977. Sa formation s'est parachevée à l'École française d'Athènes, où il est entré un an plus tard et dont il devint le secrétaire général durant 8 années. Il a mis sa compétence au service des grands chantiers traditionnels de l'école, dans la Grèce continentale, Delphes, Argos, et dans la Grèce des îles, Delos, Thasos, Chypre. Mais le tournant décisif et original de sa carrière a été de fonder, en 1990, le Centre d'études alexandrines. Changeant de continent, il resta au service de l'hellénisme. Il passa d'Athènes, la cité la plus prestigieuse du monde grec de l'époque classique, à la nouvelle Athènes du monde grec hellénistique, Alexandrie, qui doit son nom à son fondateur, Alexandre le Grand, en 331 avant Jésus-Christ, et son essor à ses successeurs, les Ptolémées. Jean-Yves Empereur, lui, fonde comme un Alexandre, et il règne comme un Ptolémée. De fait, il dirige le centre qu'il a créé au cœur d'Alexandrie depuis près de 20 ans. C'est une performance pour un directeur de recherche au CNRS qui demeure dans un monde où tous les autres changent. C'est le signe de l'adéquation parfaite de l'homme à la mission qu'il s'est assignée, celle d'œuvrer en étroite collaboration avec le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes pour mettre au jour et sauvegarder le patrimoine exceptionnel d'Alexandrie qui devint la première mégapole politique, administrative, intellectuelle et commerçante du monde hellénistique avant d'être la seconde capitale de l'Empire romain. Ce sont des fouilles d'urgence qui aboutirent aux découvertes les plus célèbres. Les résultats de la fouille sous-marine confiée au centre en 1993 au large du fort de Kaïd Bey, construit sur les ruines de l'ancien phare, eurent un retentissement mondial. De l'une des sept merveilles du monde, qui doit son nom à l'île Pharos, connue des Homères, ont émergé une porte monumentale de style dorique et des restes de statues royales qui lui étaient associées. L'aspect spectaculaire des blocs énormes de cette merveille retrouvée, pour reprendre le sous-titre d'un des volumes que Jean-Yves Empereur a consacré au phare d'Alexandrie, ne doit pas masquer le caractère scientifique de l'opération qui se poursuit à raison de deux missions par an, procédant à une cartographie de 3000 blocs architecturaux immergés et miraculeusement préservés par la subsidence sur une superficie de plus d'un hectare, par des techniques de plus en plus affinées, aboutissant à une carte électronique que l'on peut interroger pour serrer et classer les vestiges. Puis, étendue au nord du port oriental, les recherches ont amené une deuxième découverte notable, celle d'une série d'épaves de bateaux grecs et romains qui ont coulé juste avant d'arriver au port, malgré la présence du phare par suite des hauts fonds. Dans ses investigations sous-marines, Jean-Yves Empereur n'improvisait pas. Il bénéficiait de sa propre expérience passée à l'école d'Athènes, où il ouvrit la fouille sous-marine du port de Thasos avant de diriger celle du port d'Amathonte. À Alexandrie, il a bénéficié aussi de l'expérience de ses prédécesseurs auxquels il sait rendre hommage. Le plongeur égyptien Kamal Abud El Saadat, qui fit remonter en 1962 une statue colossale d'Isis, et l'archéologue britannique Honor Frost, une des pionnières de la plongée archéologique, chargée par l'UNESCO en 1968 d'une expertise et auteur du premier article scientifique sur le site. Une troisième découverte, à l'occasion d'une fouille d'urgence, cette fois sur Terre, fut la nécropole ouest, mentionnée par le géographe Strabon, que Jean-Yves Empereur présenta à notre Académie des inscriptions et belles-lettres dans une communication très remarquée en 1998. Toutes ces fouilles mobilisent plus d'une dizaine d'archéologues, une cinquantaine de collaborateurs et jusqu'à une centaine d'ouvriers journaliers, sans compter les services de topographie, de conservation et de restauration. L'archéologue, en effet, n'est pas seulement un découvreur. Il a aussi la double mission de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. La collection des études alexandrines, créée à cet effet, compte, après 10 ans d'existence, 17 volumes publiés en 3 langues, français, allemand et anglais. Des colloques sont organisés chaque année. Par son œuvre propre, comprenant une centaine d'articles et une douzaine de volumes, Jean-Yves Empereur apporte une contribution éminente. Quant à la mise en valeur du patrimoine, elle consiste à ériger les trouvailles du centre dans la ville d'Alexandrie elle-même. C'est ainsi que la statue colossale d'un des premiers Ptolémées qui se dressait jadis près du phare a été érigée devant la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. D'autres pièces antiques sorties de l'eau ont été aménagées en un musée sous-marin en plein air au Théâtre romain qui fut inauguré lors de la visite officielle du président Jacques Chirac en 1996. Les mosaïques macédoniennes, semblables à celles de Pella, découvertes par le centre, vont prendre place dans un musée que les autorités égyptiennes ont décidé de construire. Dans un élargissement final, il est indispensable de souligner que les fouilles urbaines ne se limitent pas à l'Alexandrie antique. En creusant depuis la surface de la ville actuelle sur 10 à 12 mètres de stratigraphie, le centre contribue à l'histoire d'Alexandrie dans toute sa durée, à l'époque médiévale arabe, à l'époque ottomane et à l'époque moderne, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Comme le dit Jean-Yves Empereur, à la fin de sa belle synthèse sur Alexandrie hier et demain, alors que le caractère des fouilles sous-marines attire beaucoup de monde, on manque de force dans le sauvetage urbain. Il est à espérer que le prix Onassis contribue à conforter l'archéologie de sauvetage urbain dans sa lutte inégale contre les promoteurs. Ce n'est pas la seule lutte inégale. Il y a aussi celle que nous, hellénistes français, nous menons avec notre phare à nous, Jacqueline de Romilly, pour montrer que le triangle d'or de nos humanités français, latin, grec reste un socle solide pour construire. Le destin de Jean-Yves Empereur est là pour nous rappeler de façon exemplaire que de telles racines profondes n'empêchent pas de déboucher sur l'actualité, bien au contraire, comme un plongeur revenu à la surface, riche de tout le passé qu'il a découvert et qui donne son véritable sens à la surface mouvante du monde contemporain. Merci.
Monsieur Jean-Yves Empereur.
C'est l'honneur, au nom de la Fondation Onassis, de vous remettre ce prix des belles-lettres.
Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels et les académiciens, Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec une réelle et profonde émotion que l'équipe du Centre national de la recherche scientifique à laquelle j'appartiens et moi-même avons appris que nous étions lauréats du prix de la Fondation Onassis. Je voudrais remercier ici particulièrement le président de la Fondation Onassis, d'autant plus qu'il est alexandrin lui-même et que cette proximité nous touche. Nous sommes aussi particulièrement honorés que le jury de l'Institut et de la Fondation Onassis nous ait retenus aux côtés de quelqu'un que j'admire depuis tant de décennies, j'ai parlé de Sir John Boardman, que nous apprenions par cœur lorsque nous préparions le concours de l'École française d'Athènes. Et c'est là le lieu de rappeler juste un instant ces maîtres auxquels je dois tant. Je rappellerai la mémoire ici de François Chamou, de Jean Bousquet et de Jacques Tréheux, qui ont permis donc à ce jeune étudiant d'approfondir sa connaissance de la langue, mais aussi de la civilisation hellénique. Et c'est à l'école d'Athènes que l'on peut, sur le terrain, vraiment comprendre ce qu'est l'hellénisme, au-delà de nos études théoriques. Et c'est, comme on l'a rappelé, à Argos, à Delphes, à Délos, à Thasos, à Chypre, que j'ai pu saisir l'âme de l'hellénisme, aussi bien antique que contemporain. Et c'est ce qui m'a permis, lorsque je me suis déplacé à Alexandrie, il y a une vingtaine d'années maintenant, de comprendre ce qu'était l'hellénisme alexandrin de cette capitale d'Alexandre le Grand. Et c'est là que, dans cette rencontre extraordinaire entre les deux plus grandes civilisations de l'Antiquité, la civilisation égyptienne et la civilisation grecque, eh bien, nous assistons tous les jours à ce miracle alexandrin que nous retrouvons peu à peu dans nos fouilles, aussi bien depuis cette Alexandrie macédonienne que nous arrivons à atteindre par 12 mètres de profondeur sous le sous-sol, que dans toutes ces inventions hellénistiques dans le domaine de l'art, des sciences, de la technologie. Et je voudrais être très bref parce que je crois que cette séance a un peu duré. Donc je voudrais simplement vous dire que nous sommes particulièrement touchés que ce prix vienne de Grèce et nous encourage dans cet approfondissement de notre redécouverte d'Alexandrie et dans cette diffusion à laquelle nous sommes tellement attachés, de l'hellénisme à travers sa capitale du monde hellénistique. Et grâce à vos encouragements, grâce aussi aux moyens fournis par ce prix, sachez que notre équipe continuera à œuvrer dans ce sens, aussi bien par ses publications scientifiques que par des films, que par des sites web, que par des maquettes des monuments d'Alexandrie. Nous nous attacherons par tous les moyens à attacher à cet hellénisme auquel nous croyons, eh bien aussi bien un public scientifique qu'un public élargie. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, il nous reste, au nom de l'Institut de France, à nous féliciter avec la Fondation Onassis de la tenue de cette belle cérémonie, à remercier les orateurs, à féliciter les lauréats et à lever la séance.
Vous venez d'entendre la retransmission de la remise des prix internationaux Alexandre Onassis qui se sont déroulés sous la coupole de l'Institut de France le 14 décembre 2009.